I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation Daniel Finot. Ce soir, Sophie Rosemont et Christophe Comte se font face à notre affiche Bolver de Benjamin Biolay chez Barclay, No Shape de Perfume Genius chez Matador et Humans Gorillaz chez Warner. Vers 21h20, Xavier Martinet nous invitera à le suivre dans le petit salon pour nous parler du rap en Belgique. Puis il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Venenum, un monde empoisonné en ce moment au musée des Confluences à Lyon. Et nous ouvrons cette émission avec le retour de Benjamin Biolay un an à peine après Palermo Hollywood avec Bolver, justement, revenir, album sous-titré Palermo Hollywood volume 2. Deuxième disque donc, né de ses allers-retours en Argentine. On écoute tout de suite un extrait de cet album, Le Nuage.
Pour l'homme à l'eau. horizon au-dessus des abysses. Toujours sur le ruban, en maison, au business. Paris, même en tombant, ne serra pas les fesses. Un nuage pressant au-dessus de nos têtes. Et la pluie qui s'entête. La pluie, la pluie.
Neuvième album studio pour Benjamin Biolay, huitième album chansons originales. Après ce Palermo Hollywood qui avait remporté, rappelons-le quand même, une victoire de la musique du meilleur album de chansons 2016. Alors, sur ce volume 2, pour commencer, Christophe Comte.
Moi j'ai toujours une tendresse particulière pour Benjamin Biolay depuis le début. J'ai pas attendu qu'il ait du succès pour.
Il en a eu tout de suite.
Parce qu'avant il y a eu.
Kennedy, c'était quand même.
Ouais, mais pendant très longtemps ça a été quand même un sujet de moquerie. Enfin, ça l'est encore un peu. On peut en reparler un peu plus tard concernant certains titres de cet album. Après, c'est quelqu'un, je trouve, voilà, qui a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est extrêmement productif. On a l'impression que tout sort comme ça de manière naturelle chez lui, qu'il arrive à faire des albums à peu près tous les ans, en faire pour d'autres, faire du cinéma, etc. Il y a une certaine facilité naturelle qui peut très vite rendre suspect. Moi, je trouve que ce disque, comme le précédent, comme celui d'avant aussi, peut-être j'exclurai dans sa discographie à l'origine et La Superbe, qui pour moi sont des albums très maîtrisés d'un bout à l'autre, on sent qu'il est dans une sorte de... qui se laisse griser parfois lui-même par sa facilité. Alors, j'emploierai pas des mots hors de propos, genre génie, etc. Mais disons ses capacités à produire des choses dans tous les styles font qu'à un moment on se retrouve avec des albums un peu puzzle, un peu où on a l'impression qu'il y a effectivement. Alors là, on est un peu la phase B du précédent album qui était avec cette couleur argentine beaucoup plus présente. Là, on est sur la queue de comète de l'Argentine, avec des choses qui n'ont pour le coup plus rien à voir, comme le morceau qu'on vient d'entendre, et d'autres morceaux. Il a, je pense, sur cet album-là, la grande force, c'est vraiment les ballades, c'est les morceaux atmosphériques, les morceaux personnels, les morceaux un peu plus, stylés, dans un genre exercice de style, ou les morceaux argentins qui commencent un peu à fatiguer. Là, c'est, pour moi, ça a été quand même un peu plus difficile. Après, il y a de très très beaux morceaux. J'ai été surpris à la réécoute d'adorer vraiment sa reprise de Avec le temps, parce que au départ, je me suis dit quelle drôle d'idée, parce qu'il y a vraiment un morceau qui est. Ouais. Et puis finalement, contrairement à ses relectures de Charles Trenet que j'avais trouvé finalement assez conventionnel, là, je trouve qu'il s'approprie vraiment cette chanson. Et donc. Pour moi, la tonalité assez noire, mélancolique, nostalgique de ce disque-là, je la trouve assez réussie. Je trouve moins réussie ce dont je parlais, les exercices de style. Alors, style vraiment le morceau hyper tranquille, ce façon PNL qui a fait beaucoup jaser depuis quelques jours puisqu'il a été envoyé aux radios. Alors moi, je veux dire un
truc. Lui revendique son goût pour PNL.
Il y a un truc très étrange quand j'ai écouté ce morceau, quand je l'ai vu à arrivée hyper tranquille, etc. J'ai, comme je voyais tous les commentaires sur les réseaux sociaux, je suis allé l'écouter et je me suis rendu compte, alors que j'ai l'album depuis 2-3 mois, que je ne m'étais pas rendu compte que ce morceau existait sur l'album. J'ai même cru qu'il avait été rajouté par rapport à l'album qu'on m'avait envoyé, parce que à tel point que mon cerveau ne l'avait pas du tout imprimé. Je le trouve pas si mal que ça dans l'exercice de style PNL. Après, pour Biolay, la manière qu'il a de se mouvoir dans le clip, etc., on est vraiment, là, pour le coup, un peu dans une espèce pas de pastiche, mais c'est quelqu'un qui a toujours été, qui revendique une influence du rap depuis très très longtemps. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec lui vraiment au tout début, et puis ça a été vraiment très très marquant à partir de À l'origine, justement, le morceau À l'origine, et puis d'autres morceaux. Mais là, il rentre dans une autre sphère en utilisant de l'autotune. Alors, on se dit, est-ce que c'est vraiment utile pour lui de montrer qu'il est capable de faire un morceau à la manière d'eux? Alors, on peut se dire aussi que il a tellement fait de morceaux à la manière de Gainsbourg. Bon, ben voilà, oui, maintenant il fait à la manière de PNL. L'échelle est un peu plus.
Mais c'est pas la même.
Mais voilà, bon, voilà. Pour la, je dirais pas que c'est un grand disque de Biolay. Je pense que c'est un disque un peu mineur dans sa discographie, avec des fulgurances quand même très, 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 très marquantes et quelques morceaux qui sont assez exceptionnels, je trouve.
Bon, on va revenir sur certains morceaux. Sophie Rosemont, Triste Mine, peut-être un peu dubitative.
Bah, c'est un peu l'émission des albums trop longs. Le problème de
il
cet album...
Il n'est pas si long.
Il est trop long. 15 ouais. titres, c'est trop. À 10, ça aurait été un très bon album de Biolay. Là, je les ai comptés. Les chansons vraiment que je trouve très réussies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui est quand même très bien sur un album de 10 titres.
Oui, bien sûr.
Là, malheureusement, on se perd un peu en chemin. Effectivement, les incursions du côté de la pop dance argentine sont extrêmement pénibles. Ensuite, ce truc à la PNL, mais en fait pas si PNL que ça, parce qu'il est quand même beaucoup plus audible que n'importe quel titre de PNL.
Et puis, on comprend les paroles.
C'est on comprend très bien, hein, finalement. Bon, après, le clip, évidemment, on n'en peut plus des clips qui se passent au bord de la mer avec des maisons blanches. Hein. Ça va, The Blaze, PNL, bon, c'est très ennuyeux. Mais il y a effectivement des points d'orgue, vraiment, comme ce titre avec Catherine Deneuve. Avec ex-belle-maman, les textes sont très beaux sur le Paris post-attentat. Et puis évidemment, il y a ce côté très cinématographique qu'on aime bien chez Biolay. Et effectivement, j'ai été très touchée par la reprise de Avec le temps, qui montre une fois encore que la grande qualité de Biolay, hormis d'être vraiment un poète du spleen contemporain, c'est de rendre actuel n'importe quoi. Et Avec le temps est une reprise qu'on pourrait juger classique, mais qui rend tellement moderne, tellement de notre ère, qu'elle en devient nouvelle. Vraiment, elle prend une nouvelle peau. Et c'est le cas de pas mal de titres. Moi, j'étais charmée par Roma, qui est un titre pop disco, vraiment tubesque, très, très appréciable. Voilà, il y a des belles choses, mais voilà, ça se perd. Donc, il va à droite, il va à gauche, il lève le bras, il hausse un sourcil, il se gratte le cou. Non, faut qu'il se concentre un peu plus. Et à côté de ça, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, le côté mauvais élève de Biolay, le côté un peu canaille. Je suis dandy, mais je suis une canaille. Je suis un super musicien, mais quand même, j'aime bien être un peu cracra, un peu wesh-wesh. C'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Donc, on va lui pardonner ces petits écarts qui, finalement, font partie de lui et qui, ça a été souvent le cas, finalement, sur pas mal de ses disques. Hein. Rares sont les disques de Biolay où tout était parfait de A à Z, et c'est peut-être là-dedans qu'on l'aime. Et puis, là, il y a la sensualité aussi, que j'aime beaucoup chez Biolay. C'est pas que le côté latin, tout ça, c'est vraiment une espèce de sensualité qu'il a dans son phrasé, dans ses arrangements, toujours. Et puis, voilà, dès qu'il touche à une corde, moi, je suis assez charmée. Mais non, il faut arrêter là, il faut passer à un autre continent, je sais pas, le Japon, l'Europe de l'Est. Mais là, c'est bon, il a bien fait son voyage, c'était sympa, on lâche le cigare et on va ailleurs.
Mais c'est vrai que c'était fait un peu queue de comète dont parlait Christophe Comte, qui est un peu problématique quand on découvre l'album. C'est cette impression de... pas de fond de tiroir, ce serait un peu trop péjoratif, mais enfin quand même de... Oui, on met un peu de... C'est un peu fourre-tout, effectivement. Rome n'est pas en Argentine, que je sache. Et PNL, les Tartarets, c'est assez loin de Buenos Aires ou de la Patagonie. Et donc, on ne sait pas bien ce que... On écoute certes une succession de titres, on n'a pas l'impression d'écouter un album. C'est plutôt ça que je me disais, mais le côté hispanique est précédé. Le morceau Vengeance, qui est décliné en deux dans l'album précédent, dont j'oublie le titre tout de suite, l'un avec avec Carl Barra et l'autre avec une chanteuse espagnole, sont des morceaux absolument magnifiques qui, moi, me transportent. Et il y a ce romantisme suave et cette délicatesse et en même temps ce côté, oui, canaille que je qui me font absolument décoller. Ici, on est dans un peu dans un entre-deux avec des hauts, des bas. J'ai peut-être pas encore assez écouté.
C'est peut-être la gueule de bois de la soirée. Voilà, il y a le côté, je bois de l'alcool et je chante la fête et je suis à Buenos Aires et je me change les idées de Saint-Germain. Et là, c'est peut-être la gueule de bois. Et d'ailleurs, il le dit, l'alcool triste. Et c'est aussi l'album de quelqu'un qui est un peu triste.
Il y a toujours un peu la fête et la gueule de bois sur ses disques. Là, souvent, ça se répond. Puis il faut dire aussi que de manière tout à fait prémonitoire, c'est le premier disque macroniste quand même, parce que ni gauche ni droite revient trois fois dans l'album. C'est quand même très bizarre, sans doute qu'il a été écrit il y a beaucoup plus longtemps. Mais ça m'a sauté aux oreilles quand je l'ai réécouté depuis. Il y a un peu de ça quand même, il y a cette espèce de charme, de facilité qu'on peut rapprocher du nouveau président.
Oui, t'es à Buenos Aires et en même temps à Rome.
Et en même temps à Rome et puis un peu partout.
Et puis
on séduit tout le monde et on ramène un peu à la fois les rappeurs, les fans de PNL, les fans de Scott Walker. Enfin, on est un peu dans une espèce de brouillard. Moi, je trouve que Biolay mériterait de temps en temps d'avoir un peu plus de parti pris, de faire des disques, voilà, sans se dire il faut que je fasse aussi mon malin à faire PNL ou machin, que je colle à mon époque d'une certaine manière, puisque de toute façon la modernité, il sait très bien qu'il est parmi les chanteurs contemporains celui qui résonne le plus avec son époque, probablement, parce que voilà, il y a des tas de choses dans ses chansons, dans ses textes, etc. Donc il n'a pas besoin de forcer musicalement le trait sur des choses qui parfois, je sais pas, dans 4 ou 5 ans, on les trouvera très anecdotiques et assez inécoutables, alors que lorsqu'on fera la compilation de ces grands morceaux d'albums, une fois j'en avais discuté avec lui, je lui disais, je pense que t'es le seul artiste à avoir sorti autant de mauvais singles de très bons albums. Mais c'est vrai, quand vous prenez toute sa discographie, c'est toujours les plus mauvais titres qui sont sortis en single. C'est valable vraiment pour Une chaise à Tokyo, tous ces trucs qui ne jouent quasiment plus jamais sur scène d'ailleurs. Si on fait un best-of de Biolay de ses singles, on va tomber sur son plus mauvais album, ce qui est quand même assez étrange comme pour un artiste.
J'aimais beaucoup Une chaise à Tokyo. Ouais, il l'a joué l'année dernière sur scène.
C'est vrai qu'il l'a rejoué. Bon. Mais bon, dans la Mercedes et tout ça, enfin, c'est quand même pas ses meilleurs morceaux. Alors après, il a un sens du single qui peut aussi... Moi, Padam, Padam, par exemple, c'est le morceau que j'aimais le moins dans la Super, mais bon, c'est celui qui a fait aussi que l'album a marché, donc on n'est pas forcément synchrone avec le goût des gens, mais lui, en tout cas, l'est, et il a ce côté assez intelligent, ou voire un peu opportuniste, de savoir à chaque moment choper une couleur du temps et en faire un morceau.
Bolver de Benjamin Biolay, c'est chez Barclay. Beaucoup de concerts à venir. Ça commence mi-juin, le 15 juin, très précisément, au Bikini à Ramonville. Le 16 juin, Angoulême. Le 19 juin, il sera aux Nuits de Fourvière à Lyon, où il a maintenant ses habitudes. Puis 7, Bruxelles, Hérouville-Saint-Clair, Montreux, Jazz Festival le 15 juillet, les Francopholies, La Rochelle le 16, Saint-Tropez et Puget-sur-Argin, et enfin, ça sera fin juillet, puis il y aura un Zénith à Paris le 30 novembre.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Perfume, Genius et Gorillaz. Mais tout d'abord, nous suivons Xavier Martinet dans le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, loin de Buenos Aires, vous nous emmenez plutôt du côté de Bruxelles.
De Bruxelles, de Charleroi, puisque la dernière marque d'intérêt est précisément ce reportage fouillé de Libération il y a une semaine sur les traces du rap bruxellois, plus largement belge. Marie Ottavi dresse le tableau d'une scène hip-hop jeune, plus que frémissante et surtout de plus en plus visible. Cet article de Libération sur place témoigne d'un intérêt croissant dans la presse française depuis 2013, disons, renforcé depuis le début début de cette année. En tout cas, aujourd'hui, le rap belge est, je cite l'article, dans la grande place. C'est ce qu'annonce Libération. Jusqu'ici, la scène belge était en effet, explique-t-il, bridée par deux limites. Le manque de canaux de diffusion dans un pays de moins de 12 millions d'habitants. Libération relève d'ailleurs une émission, une seule de radio Pur Jus sur Pure FM, qui je crois est une filiale de la RTBF consacrée aux musiques urbaines. Deux scènes seulement à Bruxelles. Et puis, il y a aussi ce problème d'image bruxelloise qui avait du mal à correspondre à celle, disons, d'Épinal, d'un rap gangsta subversif ou de revendications sociales, du moins. Je connais peu de gars qui se la jouent dans le rap ici. Il y a une humilité, c'est dû au fait qu'on n'a pas de passif lourd derrière nous, on n'a pas d'ancêtres à honorer spécialement, de zone à représenter ou une institution à respecter comme en France, justement une des figures à Libération. On est détaché du rap français, a ajouté en écho un autre groupe sur Radio Nova la semaine dernière. On voit que ce détachement est donc revendiqué. Et pourtant, aujourd'hui, les rappeurs belges qui percent en France sont nombreux et pas sans appui ou connexion française. Justement, d'abord l'oreille et l'aide de Booba, qui a repéré certains d'entre eux et les a fait tourner avec lui dès fin 2015, relève les Inrecuptibles. Il le relève en 2016. C'est le cas des chanteurs qui se font appeler Damso, qui a fait la première de Booba à Bercy en 2015, et de Shay, j'en parle parce que c'est une des rares femmes du circuit, qui prouve que les chanteuses n'ont plus à être complexées, disent les Inrecuptibles. Tous deux, c'est vrai, sont parmi les plus écoutés en France. Un autre chanteur, Caballero, lui a passé 6 ans avec les rappeurs parisiens, Giorgio, L'Homme Pâle, Nekfeu aussi. Il était aussi attentif au rappeur Je ne vois Makala. Preuve quand même que dans le rap européen et du moins francophone, on s'écoute, on se connaît. Et aujourd'hui, les producteurs français veulent doubler les Belges en quelque sorte. Les labels indépendants viennent renifler ce qui se fait outre Quiévrin. C'est comme ça que l'on dit en Belgique. Écrit Libération, par exemple, Universal Music Belgium vient de créer un label hip-hop. Et puis Hamza, qui est une autre star, vient lui de signer avec ce label français bien connu, Because Music. Reste maintenant le phénomène belge déclencheur, unanimement identifié à Stromae. Il nous a décomplexés et désinhibés, disait Hamza en 2016 aux Inrecuptibles. La timidité ou le sentiment même d'infériorité, hein, comme disait un chanteur, semble aujourd'hui avoir disparu. En témoigne par exemple les titres ou le titre du chanteur Roméo Elvis à Rennes en septembre dernier, titre qui s'appelle Bruxelles arrive, titre phare de ce nouvel engouement, à la fois provocateur et humoristique, avec son refrain serré dans une caisse que je vous engage à écouter. Beaucoup de variations dans ses musiques, mais ses points forts, d'après les critiques, l'alliance du rap et du boom bap, hein, je l'ai appris, ce sont ces breaks sautillants et répétés qui ont fait les grandes heures du hip-hop, expliquait le site Frères de Sample en 2014. Et puis une esthétique proche de l'ego trip, ça c'est les Inrock qui le disent, plutôt soignée, j'ai l'impression, et plutôt variée. Elle est immense, en tout cas sur Internet, immensément variée. Ceux qui sont plutôt premier degré, disons, ce sont Damso, spécialiste de l'autotune, justement, et des paroles, on pourrait dire, pornographiques. Hamza et son esthétique, lui inspirée du rap d'Atlanta, et puis Shay, évidemment, dont le style des clips est plutôt adouci aujourd'hui, un peu moins gangsta, plus léché. Premier degré, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roméo Elvis, autre favori, lui, du public et de la presse, au point qu'il est passé en quelques mois cette année d'articles élogieux dans Click TV à une interview dans Marie-Claire, un chanteur beaucoup plus positif, là, dans le style et le ton, et parfois représentant de cette branche plus franchement ironique ou humoristique du rap, clip inclus. Il y a aussi le duo Jean Jass et Caballero, rencontrés par les Inrock en avril. Ils sont d'ailleurs ce soir jeudi à Paris. Les choses changent, en tout cas, dans le cinéma, pareil, même dans le foot, Stromae, Poulvord, François Damiens, le Belge à la côte en ce moment. Toute cette condescendance disparaît pour laisser place à une forte admiration, à de la fraîcheur. Parfois, je fais un parallèle entre la place de la Belgique dans le rap francophone et celle de Toronto dans le rap US. Alors, que penser de cet élan et surtout, quelle place peut se faire ce rap belge en France ?
Alors, je vois qu'on en parle, en tout cas, Xavier, mais dans diverses colonnes. Caballero, hein, pour les Inrecuptibles. Et puis, je note surtout qu'après London Calling, Bruxelles arrive. C'est quand même ce qu'il faut retenir. Et qu'on a, il est loin le temps de Benny B. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Vous aviez l'air consternée par ce sujet, Sophie Rosemont. Vous n'avez pas d'intérêt pour le rap belge ?
Bah, disons que j'ai écouté quelques titres. Ah. Et effectivement, j'ai été consternée. C'est d'une vulgarité à toute épreuve. Et je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que le summum du bon goût et de la coolitude, c'est trouver cool le rap, le rap de Pacotti. Pour moi, c'est vraiment c'est du Benny B avec des beats un peu plus épurés et puis et des vers où il y a écrit, enfin où on entend chatte, pétasse, pute et doigt. Excusez-moi, mais vraiment en l'espace de 10 secondes. Bon, hormis la misogynie crasse de nombreuses de ses chansons. Je trouve qu'il y a vraiment très peu d'intérêt artistique. Et c'est un peu peut-être comme au début des années 2000, où il y avait espèce de ce revival rock and roll. Et n'importe quel groupe de mecs de 15 ans qui savait plaquer trois accords, on les prenait pour les nouveaux Strokes. Bon, bah là, c'est ça. N'importe quel mec qui arrive et qui pose un minimum de flow et qui a surtout des très bonnes prods, enfin, comme dans l'air du temps, on le trouve merveilleux, on le prend pour le nouveau Booba. Romeo Elvis, je le sors quand même du lot, j'ai trouvé que c'était quand même mieux écrit, moins agressif, mais sinon, Damso, franchement, je me suis sentie agressée. C'était une épreuve. Et Ramsa, alors là, je crois que je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Plus jeune encore, 22 ans, je crois.
Vous comprenez pas quoi?
Ah, je ne comprends pas
l'intérêt.
Ce qu'il raconte, je le comprends. Mais alors, je ne comprends pas l'intérêt de ce qu'il raconte. C'est vraiment les mêmes histoires qu'on nous rabâche. Mais ils se sentent inférieurs. Bon, après, ça, je trouve ça débile, ce côté de, on s'est inférieur, on veut montrer qu'on vaut quelque chose, et du coup, on raconte n'importe quoi. Mais même si effectivement le rap se joue de la vulgarité depuis toujours, ça a été le cas dans les années 90. Mais des mecs comme les rappeurs ne fût-ce que de première classe, qui ont pu aller loin, être frôlé avec la misogynie ou d'autres choses, effectivement, être vulgaire, n'était jamais à ce point-là. C'est-à-dire que là, il y a des choses, c'est « Je suis Terminator dans ta chat ». En 2017, j'ai plus envie d'écouter ça. C'était une blague il y a 25 ans, mais là, c'est même plus drôle. C'est vraiment c'est à côté de la plaque. Et évidemment, du point de vue instru, franchement, rien ne m'a vraiment chatouillé l'oreille, à part effectivement Romeo Elvis. Après, le son est assez propre, notamment sur Damso. Je trouve que le son est pas trop mal. Mais non, vraiment, je suis rap belge. Pour moi, c'est même pas un sujet.
Bon, en tout cas, vous avez travaillé, sauf heureusement.
J'ai pris sur
étude.
Moi. J'ai pris sur mon
Christophe
temps.
Christophe Comte, vous avez bien fait vos devoirs.
J'ai moins travaillé.
Je sais pas pourquoi, je m'en doutais un peu.
Non, mais
il a moins tenu longtemps que moi, je pense.
J'en tiendrai une des phrases que l'un des artistes, à un moment, cite et dit, on n'a pas d'ancêtre, ouais. On n'a pas de... Bah, c'est quand même une fausse analyse, parce que l'ancêtre, en fait, l'histoire coloniale belge est aussi pesante que l'histoire coloniale française, et c'était évident qu'à un moment, elle allait émerger à travers... le rap est quand même généralement la musique dominante, notamment des jeunes issus de l'Afrique. Voilà, c'était évident qu'après deux générations, il y en a certains qui revendiquent cette part-là de l'héritage de familial ou de l'histoire de leur pays. Après, sur la spécificité du rap belge par rapport au rap français, qui lui-même est quand même une sorte de parodie du rap américain, moi, j'ai pas vu tellement de différence. Alors, effectivement, Romeo Elvis, moi, la première fois que j'ai entendu, c'est très bizarre, parce que ça m'a fait vraiment penser à Dick Angarn, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose dans son phrasé qui est assez proche de Dick Angarn, qui n'est pas belge, mais qui a chanté Bruxelles, puis qui, bon, finalement, c'est le nord de l'Europe, c'est un peu pareil. Il y a quelque chose, l'accent belge sur le rap avec ce phrasé-là et cette musique-là, ça m'a paru assez singulier par rapport à Damso, effectivement, qui pourrait être Booba, ou enfin là, pour le coup, il est totalement intégré dans cette espèce de rap apatride, quoi, qu'il soit belge ou français ou suisse ou canadien, on s'en fout, il chante en français, enfin, une espèce de langage un peu mixé entre le français, l'argot, l'anglais, c'est pas mon truc, donc je vais pas me lancer dans une espèce d'analyse. Je comprends que ça plaise, ça, je suis pas toujours ravi que dans mon journal on accorde autant d'importance à ces artistes qui sont, bon, pour certains d'entre eux, effectivement très populaires, donc c'est bien d'en parler. Je pense que parler du phénomène est une chose, leur tresser des couronnes comme étant des génies en est une autre. Moi, j'ai ma réticence et plus à ce niveau-là.
Vous avez Martinet.
Oui, j'avais une remarque qui va se transformer en question sans doute sur la filiation de ces chanteurs, puisque on voit que effectivement Romeo Elvis fait allusion à cette scène de Toronto dont est issu Drake, si je ne me trompe pas. Alors j'ai regardé rapidement, effectivement il y a un certain nombre ces cinq dernières années de chanteurs, peut-être une trentaine facilement, qui y sont tous allés de leur mixtape, effectivement avec leur titre phare. Tous ne sont pas pas devenu Drake, sinon on le saurait, ça c'est la première chose. La deuxième, c'était du côté effectivement de la affiliation peut-être musicale, même en Belgique, vous disiez qui fait penser à Dick Enegarn, la voix de Romeo Elvis, c'est bien ça? Oui, c'est le fils du chanteur Marca, je sais pas si ça vous dit quelque chose, j'ai découvert à ce moment-là, mais précisément on voit avec quel
grande voix... Ça nous rappelle les vieux souvenirs. Hein.
Voilà. Marca qui avait travaillé avec MC Solar, j'ai appris ça aujourd'hui, donc il y a quand même une longue acculturation, on peut dire, de la part de Romeo Elvis au rap, à ses sonorités, et puis c'est vrai, on le voit dans le travail des textes ultra ciselés, peut-être c'est celui qui les travaille le plus de tout ce corpus et cette génération. Et dernière chose, si on parle de la filiation encore, je voyais que le grand-père de Shay, donc qui dont le vrai nom est Vanessa, c'est Taboulet Rochero, donc le fameux fondateur, un des fondateurs en tout cas,
de la rumba congolaise. Il a eu 55 enfants, donc il doit avoir 2000 petits-enfants.
Dont paraît-il aussi Youssoupha, donc
Youssoupha est le fils de Taboulet Rochero.
Grande famille, dynastie.
Et cependant, je ne sais pas ce qu'il en reste dans les musiques de Shay, de Taboulet Rochero, mais j'ai pas entendu de rumba.
Il reste pas grand-chose, mais elle a quelque chose d'assez drôle, malgré effectivement son côté Missy Elliott, bon, à notre niveau, hein, on est bien d'accord. Mais au moins, il y a quelque chose d'assez drôle dans ce qu'elle fait. Et elle a le mérite d'être une très jeune nana et de s'être quand même imposée, même si effectivement elle a été parrainée par plusieurs artistes. Mais bon, en tout cas, oui, c'est. Je pense que par rapport, le rap canadien et la place du rap canadien par rapport au rap américain, c'est un peu comme le folk canadien, le folk américain. C'est-à-dire que finalement, ça s'est toujours croisé, détourné, ça se nourrit l'un de l'autre. Là, on est dans une période où beaucoup d'artistes hip-hop viennent de The Weeknd, notamment du Canada, où il y a une vitalité de ce côté-là. Il y a eu un moment très Montréal, maintenant on est plus de l'autre côté. Mais je crois que c'est des interférences qui vont continuer encore pendant longtemps et qui ont bel et bien lieu.
Bon, à propos d'ancêtres, j'avais un post-scriptum, mais on le garde pour un prochain petit salon avec le retour de NTM. On parlera peut-être des retours, ça peut être un sujet, Xavier, vous
nous mais là, quand même, c'était autre chose. Et là, on parlait de M6 Solar. Le MC Solar, je suis las de trèfle qui pique ton cœur, c'est autre chose que les paroles de Damso. Donc, une fois encore.
Moi, je trouve ça pire, mais franchement.
Tu plaisantes?
Tellement mal vieilli, c'est horrible.
Ah bon. Non, pas du tout, justement, j'ai réécouté l'autre fois cet album-là et je l'ai trouvé vraiment très bien.
C'est de Génico, donc c'est pas possible.
Première consultation est un grand album, Christophe Comte.
Bon, ben vous ferez le petit salon dehors. Hein. Le deuxième disque à notre affiche ce soir, c'est No Shape, quatrième album de Perfume Genius, dont j'ignorais tout, j'avoue, avant son inscription au Samala Dispute, donc après qu'il s'agissait du projet solo du musicien Gender Fluid, comme on dit maintenant, Mike Adrias, qui est basé à Seattle, qu'il s'agissait donc de son quatrième album. J'ai un certain retard que je comble grâce à vous. Avant d'en savoir plus, on écoute un extrait du disque qui paraît chez Matador, le morceau Just Like Love. Just like love. Perfume Genius. Si on a le temps, j'espère, c'est pas sûr du tout, peut-être un autre morceau plus court, et vous dire que je vous sais gré d'avoir proposé cet album, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Sophie Rosemont, Perfume Genius.
Ah ben je... voilà, c'est un très 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 bel album. D'abord un petit mot quand même sur Mike Hatteras, qui est quand même un artiste assez formidable, qui a une enfance assez compliquée à Seattle, victime de violences homophobes dès son plus jeune âge, des problèmes de santé, la maladie de Crohn notamment. Donc dès qu'il peut, il part à New York, et là, bon, il sort beaucoup trop, il se drogue beaucoup, il repart à Seattle pour une cure de désintoxication, et sur le tard, vraiment, passé 25 ans, a trouvé deux voies de secours, c'est-à-dire d'abord son compagnon, Alan Wiffels, qui est aussi un compagnon artistique et à qui il dédie le dernier morceau de l'album, et la musique. Et sa musique, il l'a toujours conçue de manière assez ambivalente. D'un côté, quelque chose de très baroque, et de l'autre, quelque chose de très minimaliste, et parfois les deux en même temps. Et là, sur cet album, qui pour moi est vraiment l'album de l'accomplissement, de la victoire sur son passé d'exclusion, de rejet, il y a tout ça qui est réuni avec, par contre, une ouverture sur le monde comme on n'en avait pas eu jusque-là. C'est-à-dire que moi, le dernier album, qui était donc le troisième, a des côtés plus rock, produit par Adrian Utley, des Portishead, donc il y avait tout pour plaire, mais je trouvais que c'était trop costaud, peut-être, pour la voix, donc comme on peut l'entendre, assez magique de Mike. Et là, on est complètement charmé. C'est-à-dire que là, il y a 13 titres, mais aucun n'est de trop. tout est potentiellement tubesque, vraiment. Et ensuite, il y a cette production incroyable de Blake Miles, qui a bossé avec Fiona Apple, Laura Marling, Alabama Shakes, et qui donne vraiment une amplitude pop qui manquait jusqu'ici à Perfume Genius, qui restait quand même dans ses territoires indie, dans la lignée des songwriters comme Anony, donc anciennement, enfin, ex-Anthony and the Johnsons, mais sans le côté mainstream qu'avait Anony. Là, il atteint, mais en plus, avec ce côté, j'assume tout, c'est-à-dire j'assume mon amour de Tall Talk, j'assume mon amour de Prince, j'assume mon amour de Kate Bush, et un travail sur les cordes que je trouve phénoménal tout au long de l'album. Elles ont été arrangées par Rob Moose, qui fait un travail incroyable, c'est-à-dire autant du point de vue musique de chambre sur un titre comme Shore, ou du point de vue électrique sur un titre comme Sides, qui partage avec Wise Blood, qui est une chanteuse dont on va beaucoup beaucoup parler ces prochaines années, dont on a déjà parlé notamment à La Dispute. Et dans le dernier titre, donc Alan, il dit je suis là, et qu'est-ce que c'est bizarre d'être là. Et c'est vraiment ça, il aurait pu exploser en plein vol. C'est quand même quelqu'un qui est vraiment s'est battu avec la dépression, qui a mis beaucoup de temps à assumer son identité queer, et là c'est la victoire. Il est heureux, il se sent beau, il se sent sexy, il assume sa féminité, ça s'entend dans sa voix qui s'est vraiment ouverte démesurément, et sans en faire trop, il y a pas de drama queen là-dedans, loin de là, parce que voilà, c'est hyper hyper intelligent, hyper bien fait. Moi, je suis vraiment très admirative de cet album, je pense que c'est un des plus beaux albums de ce printemps.
Bon, Christophe Comte sur Perfume Genius.
Alors moi j'avais rencontré ce garçon sur son premier album, et je dois vous reconnaître que c'est l'une des interviews les plus douloureuses que j'ai eu à faire, parce que j'avais pas l'habitude, sur un type vraiment qui était totalement mal à l'aise, mal dans sa peau, dans un exercice promotionnel qui lui correspondait pas du tout, qui était fatigué, qui était blafard, qui avait l'air malade, et j'avais été assez surpris. Alors en même temps, ça s'entendait sur ce premier album qui était comme une sorte de papier froissé de tout ce qu'on voit, on entend aujourd'hui dans sa musique, mais réduit à vraiment à l'état de bouts de morceaux qui étaient pas du tout formés, qui avaient ce charme justement de un truc totalement quasiment saboté, c'est-à-dire de très belles chansons, mais avec une production très minimale, mais pas seulement minimale dans le bon sens du terme, mais parfois assez âpre. Et j'avais écrit d'ailleurs un papier où je disais ça en me disant, espérons qu'un jour il déplie un peu les ailes, qu'il arrive à s'apaiser, à se sentir mieux lui-même, parce que voilà, il y avait vraiment ce truc qui correspondait au personnage que j'avais en face de moi. Le disque était vraiment totalement synchrone avec ce qu'il était probablement en train de vivre. Mais depuis, effectivement, il a sorti donc deux autres albums avant ce quatrième. On l'a vu s'émanciper. Effectivement, le précédent, il y avait des truc un peu rock bizarre. On sentait que c'est par moment même un côté un peu Led Zepp. Enfin, c'était assez étrange. Là, il a trouvé le bon équilibre entre quelque chose qui serait de l'ordre du folk un peu baroque, effectivement, comme disait Sophie, et puis une chanson peut-être un petit peu plus, même par moment, on peut entendre du Culture Club, quoi. C'est-à-dire que beaucoup plus pop mainstream, mais sans tomber non plus dans la caricature. Donc c'est assez, je sais pas, il y a effectivement, il y a des très bonnes chansons, la production est très belle, et donc à l'arrivée, on sait pas si on a vraiment affaire à un personnage d'une grande profondeur qui va laisser une trace, ou si on a affaire à quelqu'un d'assez habile qui a réussi, voilà, à combiner des choses entre elles et qui sonnent très bien, mais est-ce qu'on les écoutera très longtemps, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disques comme ça qui paraissent, malheureusement, aujourd'hui, on s'est habitué à l'excellence, je dirais presque. Et j'ai trouvé ce disque assez beau et en même temps, me méfiant un petit peu de son caractère peut-être trop charmeur, et je me dis, est-ce que, je sais pas, voilà, c'est peut-être la seule petite réserve que j'ai, me dire, est-ce que c'est pas un petit peu beaucoup de cosmétiques et pas forcément des très grandes chansons. Et j'ai le même problème avec pas mal d'artistes de cette sphère-là. Autant l'album de Wise Blood, justement, l'année dernière, m'avait bluffé de A à Z et je trouvais qu'il y avait une personnalité extrêmement forte. Autant là, la personne, on la connaît déjà, mais est-ce qu'elle est pas en train un peu de se diluer dans une espèce de folklore folk queer, comme on en voit beaucoup ces derniers temps, et qui n'est pas forcément non plus un truc inoubliable. Mais je suis vraiment partagée là-dessus, je ne sais pas. En fait.
Sophie ?
Disons que lui, c'est quand même un sillon qui creuse depuis plus longtemps. Effectivement, je suis d'accord, ce côté tendance folklore dont tu me parles, qui peut parfois être assez, paraître en tout cas assez factice. Effectivement, du point de vue des paroles, il reste sur ce sillon très sentimental, très amoureux. Donc, d'un côté, c'est l'album de l'accomplissement, et sans doute, le prochain devrait partir sur d'autres territoires. Moi, je crois beaucoup en lui. Je crois beaucoup en ce talent. Et ensuite, il y a quand même une structure mélodique assez forte sur chacune de ces chansons, qui font que je pense qu'on s'en lassera pas forcément. En fait, moi, plus j'écoute cet album, plus je l'aime. Alors que j'ai été surprise à la première écoute. À la première écoute, j'ai été un peu étonnée. Moi, je suis depuis le début. Je l'avais interviewé. Bon, sur le deuxième album, donc il allait un petit peu mieux. Ce n'était pas encore ça, mais ça allait un petit peu mieux.
Faut le voir maintenant. Il doit être en pleine forme.
Là, je pense que c'est incroyable. Mais je crois que il fait vraiment partie de ce genre d'artiste qui se bonifie avec le temps et qui devrait sortir assez facilement de la tendance, sachant que c'est quand même quelqu'un assez fidèle à ses convictions à de nombreux points de vue. Ça fait quand même 7-8 ans qu'il sort ce genre de disque et finalement il a creusé ce sillon. Au tout début, il n'y avait que Anthony qui avait pu aller sur ce territoire, maintenant beaucoup plus, mais lui il était là avant. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, surtout qu'il a quand même de très bon goût du point de vue esthétique, on le voit sur ses clips, c'est quand même autre chose. Donc oui, j'ai des belles attentes là-dessus.
Bon, on n'a pas le temps d'écouter un deuxième morceau, c'est dommage. Peut-être on l'aura en supplément si on fait très vite sur le prochain sujet. Mais en tout cas, rappelons que No Shape de Perfume Genius sort chez Matador et qu'il sera en concert à Bruxelles pour écouter du rap belge. Mais aussi, donc le 9 juin, ce sera à l'ABC Club. Le 11 juin à Paris, ce sera le festival We Love Green. Et puis le 23 août à Zurich, le festival Open Air.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet pour La Dispute Musique, nouveau disque de Gorillaz intitulé Humans, groupe créé par Damon Albarn notamment en 2001, a rencontré un succès planétaire que je ne m'explique toujours pas. Un cinquième album qui aligne une liste de featuring longue comme l'annuaire. Donc à titre d'exemple, c'est De La Soul qui est invité sur le titre que nous allons écouter, Moments.
Clocks on the wall, talk to watches on the wrist. It's the moments we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moments we achieve. Best believe it's the moments. Is also back again.
with a crew that's bound to pack them in. Got a girl who's up for the May 10.
I sense the need in her grandma.
Her nose has never been skating, but she's sipping third constellation. To build her squirt game, it's sort of like Tupac out of court, run towards camera. A response to that just check, please. If that, my man, you can't let these pass you by like TikTok. I'm smacking the bottom like flip flops. Made her a long range.
She screamed.
And now we done, we passed the test. So now lay down to rest and wait for the morning hangover to come.
Clocks on the wall, talk the watches on the wrist. It's the moment we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the
moment
we achieve. Just believe it's the
moment.
Wait up and get your head from my dirty
moment.
Down to rest and wait for the morning hangover to come.
Clocks on the wall, talk the watches on the wrist. It's the
moment
we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the
moment
we achieve. Just believe it's the
moments.
Chinte, le plus moche, est attribué à Gorillaz. Alors, moi, pour moi, c'était vraiment pénible d'écouter ça. Christophe Comte.
Globalement, pour moi aussi. Je dis franchement, j'ai été extrêmement déçu par ce disque. Je trouve assez pénible. Moi, je, contrairement à vous, je comprends tout à fait Gorillaz, qui pour moi est un terrain de jeu de Damon Albarn que j'ai trouvé très souvent assez formidable et mieux que ses terrains de jeu habituels.
Il en a beaucoup de terrains de jeu.
Il en a beaucoup, mais alors là, j'ai l'impression, alors l'avenir le dira ou pas, mais j'ai l'impression qu'il a gardé les chansons un peu plus stylées, un peu plus pop et un peu plus avec un peu plus de souffle pour l'album de The Good, The Bad and The Queen qui doit arriver un peu plus tard dans l'année. Mais globalement, Damon Albarn commence un petit peu à tirer à la ligne. Le dernier album de Blur était quand même une catastrophe. Ce disque-là, c'est pas un album de Gorilla, c'est une espèce de d'agglomérat de rappeurs avec des rythmiques faites à la va-vite, comme on en entend partout. Effectivement, ils alignent toujours des noms, mais alors bon, excusez-moi, mais je préfère avoir le générique Lou Reed que Benjamin Clementine. Bon, il y a quand même une déperdition aussi là-dessus, parce qu'il y a eu quand même des featuring tellement extraordinaires jusqu'à maintenant. Bon, il y en a beaucoup qui sont morts entre-temps, je sais pas si c'est un rapport de cause à effet, mais enfin,
pour Lou Reed, certainement.
Mais bon, là, on est quand même bon beaucoup sur des rappeurs, beaucoup sur des personnes
pas qu'on n'identifie pas la première ligue, hein.
Voilà, et qu'on n'identifie pas forcément comme Grace Jones. Et alors, à ma grande surprise, parce que j'ai écouté la version deluxe de ce disque, parce qu'il est déjà très long et très pénible, mais il y a une version deluxe beaucoup plus longue.
Ouais.
Et pourtant moins pénible, parce qu'il y a un morceau extraordinaire avec Carly Simon, qui arrive en fin de course, qui n'était pas sur l'album, qui est vraiment dans les bonus, où là on entend Damon Albarn chanter normalement, une mélodie qui se tient à peu près sur un morceau très gracieux, avec la voix de Carly Simon à un moment, et on se dit pourquoi ce morceau n'est pas sur le vrai disque, et simplement relégué dans les bonus de l'édition de Luxa. C'est quelque chose que je comprends pas, parce qu'il manque, à part deux, trois exceptions, il manque des chansons où Damon Albarn reprend un peu le jeu, comme c'était souvent le cas dans les albums de Gorillaz, où à un moment... bah voilà, il y avait quelque chose qui identifiait, qui personnalisait ce projet un peu choral. Et puis moi, tous les côtés dessin animé, animation, tout ça, ça commence à me fatiguer. Déjà à l'origine, je trouvais ça pas très beau, mais alors là, maintenant, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Donc je trouve que c'est un disque globalement assez raté. Un peu, je dirais, ce genre de disque peut-être un peu, comment on dit, contractuel. Je sais pas s'ils étaient obligés de le faire ou pas, s'il y a vraiment une envie de leur part. Mais en tout cas, c'est pas Gorillaz, celle qu'on a connue sur les albums précédents. Même Plastic Beach, j'aimais bien. Enfin, il y avait un côté un peu too much, mais il y avait quand même des featuring très forts et des chansons beaucoup plus fortes que ça. Là, je me suis beaucoup ennuyé.
Bon, il y a une perle sur les bonus. Mais il faut bien chercher. Sophie Rosemont.
Il y a quand même des bons morceaux au début. Au début, il y en a. En fait, l'album commence assez bien.
Parce que vous parlez d'album long, alors celui-là,
alors,
il
est
pas d'accord.
Alors là, il est extrêmement long. 20 titres, c'est pas possible. C'est trop, beaucoup trop long. Là, on fait plus que se perdre. Là, c'est vraiment, c'est la catastrophe. Mais l'album commence bien. Il y a 2 ou 3 titres que je trouve assez bons à Ascension, notamment avec Vinnie Staples. Moi, Moments avec De La Soul, je le trouve assez réussi dans le genre. Ouais. Oui, quand même. Après, il se passe plus grand chose.
Un petit solar, c'est ça.
Et on, et on reprend avec Let Me Out, qui est un très bon titre, celui avec Mavis Staples, et Alléluia Monet, qui est bon, pas, qui n'est pas vraiment du Gorillaz, au final. Mais oui.
C'est un peu le problème, c'est qu'il n'y en a aucun.
Mais en fait, une fois encore, c'est vrai que quand les titres où il y a Damon Albarn, nous on l'entend bien, où il y a surtout, généralement quand il chante, il s'accorde les meilleures mélodies, donc forcément, ce sont des titres plus accrocheurs. Oui, on est content de le retrouver, mais sinon, il y a quand même très peu d'intérêt, c'est une espèce de fourre-tout, électroïde, ragga, dance, la chanson avec Rhys Jones, Changer, est cacophonique, hein, il n'y a pas d'autre terme. Donc c'est assez une épreuve, et pourtant, cet album se vend très bien, il y a un très bon succès critique, donc il faut quand même se demander pourquoi. Critique, pardon, commercial, le lapsus non révélateur.
La critique est achetée, la bonne dame.
Voilà.
Alors, non, ils ont fait beaucoup de promos, hein, contrairement au précédent. Bah,
beaucoup, ça reste relatif.
Mais c'est parce que l'album n'est pas bon, c'est toujours la même chose.
Ouais,
hein.
On les non, a mais alors,
quand
en interview,
là, ils font des interviews, c'est qu'ils savent bien que ce n'est pas
oui,
très
mais
bon.
Oui, mais en interview, pour avoir fait également Damon Albarn également sur cet album-là, nous avons parlé politique et très peu musique. En même temps, de quoi pouvait-on vraiment parler du point de vue de la musique sur cet album? C'est vrai qu'après, c'est quand même un album qui creuse une espèce de sillon assez engagé, qui prend position sur voilà, l'ultra-consumérisme. On peut rire ou pas venant de Gorillaz, mais il n'empêche.
Non, mais il devait être anti-Trump, il n'y a plus aucune allusion dans le produit final.
Oui. Bah oui, non, mais après,
donc il ne faut pas annoncer qu'on est anti-Trump.
Je
et puis
qu'il a peut-être envie de pouvoir
insipide.
Se promener aux États-Unis comme il le souhaite.
Bah oui,
et
bon,
ensuite,
alors,
moi, l'univers visuel de Gorillaz ne me dérange pas outre mesure. Je pense que Jimmy Hewlett...
Non, mais moi non plus.
Bon, ça a toujours été moche, donc c'est pas grave. Ça reste constant.
Non, mais c'est très subjectif, hein. Le ouais, beau,
bah
le moche.
Non,
voilà.
Mais bien sûr, j'exagère. C'est comme leur opéra Monkey Journey to the West était une abomination aussi pour moi. Oui, et musicalement et visuellement.
Alors que l'album solo de Damon, je crois qu'après, il a Damon, tout donné ouais, sur
non, Everybody. Damon,
non, non, mais je Damon Albarn.
J'avais oublié.
Non, ce n'est pas du tout mon ami proche, mais.
C'est vrai que l'album solo était très réussi.
Et ouais. C'était un album, c'était vraiment très, très beau. Et après, il ne faut peut-être pas non plus trop en demander. Il en fait trop. Je pense qu'il n'a pas assez de cartouches.
Dans le même cas de figure que Violet. Hein,
bah oui. Bon, et il se garde le meilleur pour lui.
Et
soit en solo, soit effectivement sur les moins mauvais morceaux, moi je dirais, de Gorillaz.
Mais après, quand même, l'album 2005 Demon Days était un excellent album. Moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé Gorillaz à cette période-là. C'était festif, c'était ludique.
Oui,
je pense qu'il y a encore ce côté ludique, il y a encore ce côté festif. S'il y a du succès, c'est aussi peut-être parce que les gens s'y retrouvent, parce qu'ils ont quand même envie d'une chose, c'est évident, c'est fédérer. Alors évidemment, ils donnent un pot pourri d'un peu tout et n'importe quoi, mais manifestement, ils y arrivent. Leur festival a été. Complet en quelques heures, parce qu'ils font leur propre festival en Angleterre, à Margate. Donc je crois qu'on est quand même face à un engouement qui n'est pas non plus complètement injustifié. Et moi j'ai noté 7 titres, quand même, plutôt
sur,
bien.
Sur les 44 ?
Sur les 20.
Non,
alors oui, ça ne mérite pas la moyenne.
Il y a 33 vinyles aussi, vous avez vu, Christophe Comte.
Ah bon,
33 vinyles avec un morceau en face A et un remix du morceau en face B.
Non, c'est
trop,
là,
de
c'est
toutes les couleurs. Non, mais voilà, on en est là quand même.
Oui,
il faut arrêter
gros,
de nous
c'est
inonder.
C'est un gros business aussi. Hein, ça, maintenant, voilà, toutes les éditions, il y a 4 ou 5 éditions sur un même disque. Bon.
Et puis, alors, l'édition collector dans 6 mois.
Et ça dénonce évidemment le consumérisme. Oui. C'est tout à fait logique, tout ça. Bon, c'est,
voilà, on a l'habitude.
La tartufferie n'échappe à personne et pas à Damon Albarn depuis très longtemps, quand même.
Oui, mais dès qu'il chante, quand même, on est attrapé.
Oui, oui.
Non, bon, ça n'engage que vous, hein.
Non, mais c'est vrai.
Moi,
je trouve qu'il reste quand même un compositeur, un songwriter, voilà, parmi les plus doués de la génération des années 80, 90, 2000. Moi, je vous dis, j'espère que l'album de The Good, The Bad and The Queen rehaussera un peu le niveau de ses dernières productions.
Pourtant, ils n'avaient pas non plus de très grandes chansons. Hein,
justement, c'est parce que le premier était un petit peu en deçà à l'époque où Gorillaz était très bon. Je me dis peut-être que ça va être l'inverse. Là. Parce que c'est un groupe assez bizarre, The Good, The Bad and The Queen, avec des gens quand même très hétéroclites dans le même groupe, Paul Simonon, etc. Donc, c'est, je ne sais pas, je me dis qu'il y a peut-être ce côté western que j'aimais bien sur le premier, mais les chansons n'étaient pas là. Peut-être qu'on le retrouvera de manière plus probante sur le deuxième.
Bon, ben on se donne rendez-vous pour le prochain. Voilà. Comme ça, on Exactement. Verra sur pièce. Humans, avec un Z bien sûr, de Gorillaz, avec un Z chez Warner. Et avant de conclure l'émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Nous sommes rejoints par Justine Dibling qui va nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous livrer la réponse, Justine.
La question, quel est le film de Marco Martins qui parle de relations incestueuses entre un frère et une sœur? Et la réponse était « How to draw a perfect circle ».
En portugais dans le texte. Donc, et on fait gagner ce soir, Justine, des invitations pour l'exposition Venenum, un monde empoisonné, une exposition à découvrir jusqu'au 7 janvier 2018, on a un tout petit peu de temps, au musée des Confluences à Lyon. Quelle est la question?
Dans La condition humaine d'André Malraux, le personnage Kyo veut éviter la torture et se suicide à l'aide d'un poison. Lequel?
Ah, votre réponse, question pratique, hein. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, vous abonner, vous réabonner à son podcast, vous pouvez également nous y écrire. Je vous donne de m'asseoir un rendez-vous un peu particulier puisqu'il n'y aura pas de dispute littéraire, mais je vous attends dès 20h et jusqu'à 22h pour une émission spéciale en direct de l'Institut du Monde Arabe. À l'occasion des rendez-vous de l'histoire du monde arabe dont France Culture est désormais partenaire, une troisième édition qui est placée sous la thématique des frontières, qui donnera lieu également aussi à une soirée en direct samedi, avec tout d'abord Frontières des mauvais genres avec François Angelier, également en direct et en public à partir de 20h avec le Continent Musique, également animé par Mathieu Conquet, ça c'est pour samedi 20h-23h, et demain donc sous le titre Frontières dans le monde arabe, je vous donne rendez-vous en direct et en public de Lima de 20h à 22h avec Iman Oumeidan qui est romancière, Wajdim Wawan l'auteur, metteur en scène, comédien, Sophie Bessis qui est historienne et journaliste, et également Akram Belkaïd, journaliste et essayiste. Rendez-vous demain donc. Avant cela, bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.